Il est midi sur Radio Orient, le journal Loïc Barrière. Quinze morts et des dizaines de blessés dans un sanctuaire chiite hier en Iran. Une attaque dénoncée par le président Raïsi qui fait un lien entre le terrorisme et les manifestations qui se poursuivent dans le pays. L'accord maritime entre Israël et le Liban, signé séparément à Jérusalem par le Premier ministre israélien Yair Lapid et à Baabda par le président libanais Michel Aoun. Amnesty International réclame une enquête de la Cour pénale internationale pour l'opération israélienne qui a eu lieu en août dernier dans la bande de Gaza. Entretien avec Martine Brismure, l'une des responsables de l'ONG. Emmanuel Macron a annoncé hier soir des aides aux entreprises et aux collectivités locales pour faire face à la hausse des prix de l'énergie. Enfin, elle veut redonner de la fierté aux militants écologistes. L'élue régionale Sophie Bussière souhaite prendre la tête d'Europe Écologie Les Verts pour faire de ce mouvement un parti de gouvernement. Elle était l'invitée de Pluriel hier soir, extrait dans ce journal. En Iran, un attentat a fait 15 morts et des dizaines de blessés hier à Shiraz. L'attaque a visé un lieu de culte chiite. Elle a été conduite par un individu armé. Une femme et deux enfants figurent parmi les victimes. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Ce matin, le président iranien Ebrahim Raïsi a déclaré que l'intention de l'ennemi est de perturber les progrès du pays et les émeutes qui ont lieu actuellement en Iran ouvrent selon lui la voie à des actes terroristes. Hier, les forces de sécurité ont ouvert le feu et tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants rassemblés à Saguez, la ville où est enterrée Mahsa Amini. Ces incidents ont eu lieu le jour d'une cérémonie d'hommage marquant la fin du deuil de 40 jours. Les manifestations en Iran ont fait au moins 141 morts, dont plusieurs enfants, selon une ONG. Israël a bombardé plusieurs sites près de Damas, c'est ce qu'a annoncé le ministère syrien de la Défense. Il s'agit du troisième raid aérien de ce type en moins d'une semaine. L'Observatoire syrien des droits de l'homme précise que les frappes israéliennes visaient des sites proches de l'aéroport de la capitale syrienne. Amnesty International a appelé à une enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre commis par Israël et des combattants du djihad islamique lors de l'escalade dans la bande de Gaza en août dernier. Entretien avec Martine Brismure, elle est coordinatrice Israël-Territoire palestinien au secrétariat national d'Amnesty International France.
Nous avons fait par le passé souvent des enquêtes sur les attaques israéliennes à l'encontre de Gaza, de la bande de Gaza. Et donc, il y a eu une offensive préventive selon les Israéliens en août 2022. Et donc, nous avons souhaité et trouvé absolument indispensable de mener une enquête. Donc, en fait, nous avons mené une enquête et nous avons sorti un rapport le 25 octobre qui s'intitule « They were just kids », donc ce n'étaient que des enfants, preuve de crimes de guerre pendant cette attaque. Voilà, et donc nous expliquons pourquoi ces attaques pourraient constituer des crimes de guerre. Nous avons reconstitué à l'aide de photographies, de fragments d'armes, d'images satellites et de dizaines de témoignages, les circonstances dans lesquelles ont eu lieu cet homicide commis par les forces israéliennes et une très probablement par des groupes armés palestiniens. Donc cette offensive n'a duré que 3 jours, mais elle a provoqué un nouveau traumatisme et de nouvelles destructions, comme nous en avons déjà authentifié en 2008, en 2012, en 2014. Et toutes ces violations se déroulent dans le contexte du blocus illégal de Gaza par Israël, qui est un instrument crucial de son régime d'apartheid que nous avons déterminé et sur lequel nous avons publié un rapport en février 2022. Donc la population palestinienne à Gaza se trouve dans une situation terrible, cauchemardesque depuis 15 ans, avec une crise humanitaire ponctuée d'attaques illégales récurrentes. Donc nous demandons à la CPI d'enquêter sur ces possibles crimes de guerre, mais nous pensons aussi que la, et ça nous l'avons déjà demandé, que la CPI ajoute à son enquête qu'elle mène en ce moment sur les territoires palestiniens occupés depuis 2014, qu'elle inclut le crime d'apartheid, qui est un crime contre l'humanité à l'égard du peuple palestinien.
Israël dit avoir visé le djihad islamique, mais selon Amnesty, 31 civils figurent parmi les 49 morts recensés en août dernier. Est-ce que vous pouvez nous parler des circonstances dans lesquelles ces civils ont été tués ? Il y a notamment le cas d'enfants qui se trouvaient dans un cimetière.
Absolument. Donc nous avons différents cas de une jeune femme, Dounia Alamour de 22 ans, mais nous avons aussi ces enfants, enfin cinq enfants, qui ont été qui jouaient dans un cimetière près du camp de réfugiés de Jabalia et qui ont été tués le 7 août 2022. Ceci se situe dans le nord de la bande de Gaza. C'est des enfants presque tous d'une même famille. Donc en fait, ils jouaient dans ce cimetière parce que le camp est surpeuplé et qu'en plus, ils ont besoin d'espace, il fait très chaud. Donc les conditions de vie de ces enfants et des réfugiés à Gaza expliquent que les enfants, évidemment, jouent dans des lieux qui peuvent sembler incroyables. D'ailleurs, l'armée israélienne a dans un premier temps imputé cette attaque au djihad islamique palestinien. Mais en fait, tout a été remis en question dès le 16 août par des sources militaires anonymes, hein, dans le Haaretz. Voilà. Et en plus, le spécialiste en armement d'Amnesty International estime que les pièces métalliques usinées avec précision qui ont été photographiées par notre chercheur de terrain, qui a enquêté, correspondent à des fragments de missiles guidés israéliens. Amnesty International n'a trouvé aucun élément qui aurait pu prouver que des groupes armés avaient des activités militaires près du cimetière au moment de l'attaque. Il y a des images satellites aussi qui ont été prises 10 jours plus tôt qui ne montrent apparemment aucune cime militaire dans ce secteur. Donc l'absence de cime militaire apparente incite à penser que cette attaque pourrait avoir délibérément visé des personnes civiles ou bien des biens de caractère civil, et donc pourrait constituer un crime de guerre.
Lors de cette opération militaire, il y a eu beaucoup d'émotions, c'était au mois d'août, mais depuis le silence est revenu. Il est important que la justice passe après ce que vous considérez comme de possibles crimes de guerre.
Tout à fait. Les personnes sur place, les témoins, les familles qui ont été décimées par ces homicides, attendent la justice, hein, et nous pensons qu'il faut absolument qu'il y ait des compensations et que aussi bien les Israéliens que les Palestiniens impliqués rendent des comptes et dédommagent toutes ces familles, bien sûr.
Martine Brismur, coordinatrice Israël territoire palestinien au secrétariat national d'Amnesty International France. Le Liban et Israël ont signé séparément l'accord délimitant leurs frontières maritimes, un accord obtenu après des mois de négociations via les États-Unis. Le texte a été signé par le Premier ministre israélien Yair Lapid à Jérusalem et par le président Michel Aoun à Baabda. Ce tracé permet de répartir entre les deux pays les gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale. L'accord sur la frontière maritime prendra la forme d'un échange de lettres par l'intermédiaire des États-Unis au Liban Sud. La délégation libanaise aura pour unique mission de remettre la lettre au médiateur américain Amos Hochstein et à la représentante de l'ONU. Selon la présidence libanaise, cette délégation ne rencontrera en aucune manière la délégation israélienne. Toujours au Liban, 41 nouveaux cas de choléra et 3 décès en 24 heures, ce qui porte le total à 346 cas confirmés de choléra et 14 décès. Pouvoir d'achat, hausse des prix de l'énergie, Emmanuel Macron a promis hier soir de protéger les plus faibles face à la tempête qui se profile. Il a annoncé notamment que l'État allait garantir un prix raisonnable de l'électricité aux collectivités locales et aux petites et moyennes entreprises. Un guichet d'aide incluant des acomptes va aussi être mis en place pour les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes. L'invitée de Pluriel hier soir était Sophie Bussière, conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine. Elle souhaite prendre la tête d'Europe Écologie Les Verts à l'occasion du congrès prévu à la fin de cette année. Quelles sont ses ambitions pour les écologistes? Extrait de cette émission.
Il y a beaucoup de chantiers à mener puisque notre mouvement, vous l'avez peut-être noté, est en difficulté, je dirais comme tous les partis politiques actuellement. Mais dans la séquence actuelle où les effets du bouleversement climatique se font ressentir concrètement, sont visibles, il n'est pas normal que notre parti soit aussi inaudible. Donc nous commencerons par redonner de la fierté à nos militantes et militants qui ont vécu une année encore plus difficile que d'habitude. Un soutien également à nos élus, les élus à tous les échelons qui sont attaqués en ce moment de toutes parts. L'extrême droite, bien entendu, mais aussi d'autres partis qui stigmatisent nos élus et les propositions écologiques qui souvent caricaturent nos propositions. Donc un soutien à l'ensemble de nos élus. Nous devons aussi structurer davantage notre parti pour le rendre audible, je le disais, mais également plus crédible. Nous devons bien sûr développer nos propositions en matière environnementale, mais pas uniquement. Il faut aller travailler sur le fond, sur des sujets que l'on appelle régaliens, notamment la sécurité, tous les sujets, nous devons nous en emparer pour faire de notre mouvement un parti de gouvernement. Et il faut aussi que l'on apprenne à s'adresser à tout le monde. On a une difficulté, on a souvent des propositions qui sont entendues dans les centres urbains, dans les grandes villes, mais nous ne parlons pas, absolument pas, à tout le reste de la France, donc les périphéries, les quartiers populaires, le monde rural. Et donc là, nous avons vraiment quelque chose à changer dans notre façon de nous exprimer, écouter davantage les personnes, échanger et faire que nos propositions soient plus, peut-être, communiquées de façon plus simple et concrète. Et c'est d'ailleurs terrible puisque le programme écologique apporte des solutions au quotidien, aux problématiques quotidiennes des Françaises et Français, par exemple sur le plan de la santé, de l'alimentation, le logement. Et ça, nous ne savons pas, à l'heure actuelle, l'expliquer clairement et simplement. Et donc ça, c'est un travail que nous allons mener avec donc, l'équipe du Printemps Écolo.
C'est simplement un problème de communication en direction des Français, ou bien c'est parfois la tentation de certains écologistes d'avoir des positions trop radicales qui peuvent heurter une partie des Français?
Je pense qu'il y a les deux, en fait. Il faut vraiment faire un travail sur la communication, mais il y a aussi peut-être un problème de fond aussi à résoudre. Là, vous évoquez certaines petites phrases, des choses comme ça. Ça a toujours existé. Et en fait, je trouve qu'il ne faut pas... Voilà, notre mouvement Printemps Écolo trouve qu'il ne faut pas cliver parce que les questions écologiques sont des questions quand même assez complexes. Voilà, c'est transversal. Et lorsqu'on clive, lorsque l'on fait des polémiques, sciemment ou pas, ça ne permet pas d'expliquer, de faire de la pédagogie, d'emporter la conviction. Et clairement, ce ne sont pas les écologistes uniquement qui disent qu'il faut changer radicalement nos politiques. C'est un fait scientifique. Il y a le bouleversement climatique, il y a la chute de la biodiversité. Ça, ce sont des constats scientifiques que nous avons toujours relayés, pris avec sérieux. Et il faut maintenant changer complètement au niveau politique, à tous les niveaux. Et pour le faire, ce ne sont pas uniquement les écologistes qui pourront le faire. Il faut vraiment emporter la conviction de tout le monde et faire avec des partenaires, que ce soit partenaires politiques, mais pas uniquement. C'est-à-dire que les syndicats doivent être intégrés dans la transition écologique, tous les corps de métier, etc. Et ça, actuellement, la majorité présidentielle, on l'a vu hein, dans le quinquennat précédent et là actuellement aussi, ne s'appuie absolument pas toutes sur ces forces vives. Et nous devons entraîner tout le monde parce que, imaginez bien, le chantier de la transition écologique, on pourrait même dire l'atténuation maintenant sur les conséquences du bouleversement climatique, est très important. Donc il faut le faire avec tout le monde.
Sophie Bussière, conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine, elle était l'invitée de Pluriel hier soir, émission que vous pouvez écouter sur radioorient.com. Le Conseil d'État confirme l'extinction nocturne des publicités lumineuses. L'objectif de cette mesure gouvernementale est d'économiser de l'énergie. Le gouvernement va rendre impossible la vie des étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Son projet de loi sur l'immigration prévoit par exemple d'empêcher quelqu'un qui fait l'objet d'une OQTF d'avoir un logement social. Hier soir, Emmanuel Macron a promis de simplifier les procédures d'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Une journée de grève et de manifestation ce jeudi à l'appel de la CGT. Force ouvrière solidaire et la FSU ne participent pas à cette journée. La CGT prévoit une autre journée de mobilisation le 10 novembre. Enfin, et si on en parlait à 19h et 23h ce soir, le sujet de l'émission, le conflit en Ukraine, jusqu'où ira le régime de Vladimir Poutine? Alexis Bachelet recevra Maya Kadra, journaliste et enseignante, et Jean-François Colosimo, historien, théologien et directeur général des éditions du CERF. Je vous retrouve à 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.